Je me sentais un petit peu seul. Alors, Élisée, pardon ? Et comment je pousse
Il faut appuyer dessus. Voilà.
Oui. D'accord, ça marche. Très bien. Alors, Élisée m'a dit que aujourd'hui est un dimanche spécial puisque c'est le premier dimanche des vacances et donc un dimanche un petit peu plus court. Et à partir de cela, donc, j'avais un quart d'heure pour la prédication. Alors, vous êtes prêts? Alors, pour les œufs, j'ai appris que c'est 12 minutes. On a de la chance, on a 3 minutes de plus. Je vais brancher... Non, allez. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un petit rigolo. J'espère que vous n'en êtes pas offusqués. Ça ne veut pas dire pour autant que malgré tout, on ne dise pas et on ne fasse pas les choses de manière sérieuse, n'est-ce pas? Désolé si certains m'ont déjà entendu prêcher sur ce thème, n'est-ce pas? Alors j'avais intitulé cette prédication « C'est par la foi Noé » ou « Noé et lui, Jésus et moi » et on peut se poser la question « Mais pourquoi mettre tous ces personnages ensemble ?» ou alors « Ce que cache un petit verset ?» Alors on me dit si je tape dessus, ça marche pas. Ici, hop. Alors je vais vous demander de faire un exercice tout à fait pratique ce matin, même si c'est dimanche, il fait chaud, etc., on va réfléchir, n'est-ce pas? Alors, tu connais la réponse. Hein. Il y a un texte qui nous dit ceci. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Moi, je vais vous proposer de faire une chose, c'est d'essayer d'oublier ce que vous avez en mémoire et d'essayer d'analyser le texte tel qu'il est écrit à ce ci. Alors, j'ai rien trafiqué, hein, c'est la version second 21. C'est par la foi. Alors, essayez d'avoir un esprit critique. C'est possible? Alors, on y va. Que dit le texte? Et avec ça, c'est par la foi qu'il condamne le monde. Et merci beaucoup, ça commence bien et je le voulais dans ce sens-là. Oui, quoi d'autre? Pardon? Oui, par qui? Ah ben, c'est pas écrit, hein? C'est pas écrit. C'est pas écrit. On a un paradigme qui dit dans nos têtes, ah oui, c'est, mais là, c'est pas écrit dans le texte. Hein. Je suis navré. Hein. Alors, ça dit quoi encore? Noé a construit une arche. Noé a construit une arche, oui. C'est quoi une arche? Ça, c'est ce que vous dites, oui. Ah, c'est ce que vous dites. Parce que vous avez bien appris votre histoire. Ah, ça, c'est pas top, hein. C'est pas top, hein. C'était pour sauver sa famille, vous voyez? Il la joue perso, merci beaucoup. Un parfait égoïste. Hein?
Il a construit une arche par sa foi.
Il a construit une arche par la foi ou par sa foi. Sa foi, et c'est quoi la foi? Croire des choses qu'on ne voit pas. Oui, ça ne m'a pas répondu à ma question, mais on y reviendra. Oui, d'accord, si vous le dites. Hein. Alors moi je dis qu'en regardant le texte avec un esprit bien français, bien critique, on va se dire que Noé c'est un pur égoïste qui protège juste sa famille. C'est un homme qui est guidé par la peur et l'instinct de survie. La foi qui est juste un attachement à quoi on n'en sait rien, peut-être des prédictions anciennes. On dirait chez nous, à la Nostradamus, il avait peut-être une boule de cristal, etc. Mais enfin, le texte ne nous dit rien, n'est-ce pas? Et puis, c'est un gars qui est un peu ouf, on dit, hein, fou pour le traduire en français. n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que, alors si je le traduis à notre époque, je dirais que c'est un gars qui va construire un bunker à 100 mètres de profondeur en espérant être le seul vivant d'une guerre nucléaire qui va tout détruire et à lui seul, il va repeupler le monde sur une terre dévastée. Franchement, c'est un peu loufoque, hein? Mais c'est un peu ça, hein? Mettez-vous à cette époque-là, c'est un petit peu ça. Alors, quand on a un texte comme ça, oui, il ne faut pas rester avec nos paradigmes, ce qu'on nous a dit. Mais il faut essayer de réfléchir et de construire ce qui est à construire autour d'un verset biblique. Et quand je vois un verset comme ça, il mérite quand même d'aller un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Je vais lire d'autres versions. Parole vivante dit, c'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir, etc., etc. La Darby dira, c'est par la foi Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore. La Tob dit, par la foi Noé divinement averti, etc. Alors, oui, quand on a un texte biblique, quand on le creuse, il est bon d'aller voir d'autres versions en français, dans votre langue maternelle, si vous connaissez plusieurs langues, pour voir ce que le texte dit réellement et ne pas rester seulement sur ce qu'on nous a appris. Ce qui va imposer un certain nombre de questions, ce qu'a réellement vécu Noé sur le terrain. Alors si j'appuie, il va se réveiller. Si j'appuie là... Ça manque de foi, voilà. Ça marche pas, donc tu vas devoir le faire. Ça y est, ça marche. Alors, ça va imposer un certain nombre de questions, ce qu'a vécu réellement Noé sur le terrain. Est-ce que Noé, c'est un homme qui avait une foi extraordinaire, et donc on va le canoniser avec une triple auréole? Et puis, la question fondamentale, comment refaire un peuple et un patrimoine faune et flore conséquent après le déluge, et notamment c'est déjà arrivé avec Adam et Ève, puisqu'on a commencé à partir de rien. Là, la troisième question, je ne vous y répondrai pas, parce que c'est vraiment le secret de Dieu. Mais je suis obligé de vous signaler cela, c'est que la foi, nous, on est dans une église et on se dit, la foi c'est avec Dieu, d'accord? Mais la réalité de la langue française dit que la foi c'est une confiance en une personne ou un système. Ce qui veut dire qu'un athée a aussi la foi dans le système qu'il s'est construit. Et quand vous parlez de la foi, faites bien attention, précisez bien ce que ça veut dire. Donc la foi, c'est faire confiance, et pour nous, on dira, c'est faire confiance en Dieu. Alors, je vais laisser cette petite image parce qu'elle me plaît. Les athées sont absolument certains de deux choses, Dieu n'existe pas et ils le détestent. Je trouvais ça extraordinaire. Et pourtant, c'est une réalité. Alors, il y a plusieurs textes, je ne vais pas tous les analyser, parce qu'on n'a pas le temps. Il y a plusieurs textes qui vont parler de Noé, mais en fait, surtout concentré entre Genèse 5 et Genèse 10. 1 Chronique 1-4 parle de sa généalogie, Ésaïe 54, c'est une comparaison avec le déluge qui est fait, Ézéchiel 14, et dans le Nouveau Testament, on va aussi avoir donc Matthieu 24 et Luc 17 qui vont en parler. Alors d'habitude je pose la question, mais là je ne le ferai pas ce matin, mais Matthieu 24 parle de... Non, ce n'est pas écrit. Exactement, il parle du retour de Christ. Et ça, il ne faut pas l'oublier, Matthieu 24 et Luc 17. Et puis dans les épîtres, 1 Pierre 3 va faire référence à 8 personnes qui ont été sauvées. Et on parle de prédicateurs de la justice dans 2 Pierre 2. Une quinzaine de fois dans la Bible, on va parler de ce fameux Noé. Alors, la question que je soulevais tout à l'heure, c'est de savoir, voilà, c'est de savoir comment il a été averti divinement. Moi, j'aimerais bien, quand je me lève le matin, avoir un petit papier, et sur ce papier est écrit ce que je dois faire dans la journée. Ça serait bien. Et en plus, l'objectif à long terme, ça serait encore mieux. Mais ça ne marche pas comme ça. J'ai pourtant ma Bible, mais ça ne marche pas toujours comme ça, n'est-ce pas? Alors on voit tous les exemples, certains parmi d'autres, des gens qui ont eu une révélation de la part de Dieu, une parole particulière, sous des formes différentes. Alors, c'est en rêve des anges qui sont apparus, même physiquement, des personnages qui ont pu parler, les bergers. Là, un ange leur annonce la naissance de Jésus. Paul, dans les Actes, qui a rêvé qu'il y avait un Macédonien qui l'appelait. Il y a aussi la parole de Dieu, effectivement, la parole de Dieu, mais il faut encore la lire, n'est-ce pas? Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais moi, j'aimerais préciser une chose. C'est que dans la réalité de nos vies, Dieu peut nous parler de ces différentes manières, des rêves, des visions, des anges, révélations directes, etc. Mais Dieu peut nous parler aussi au travers de nos contemporains. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Qui a parlé à Moïse? Eh bien, il y a deux interventions particulières. Dieu, au travers du buisson qui brûlait, c'est Dieu qui est intervenu. Et puis, son beau-père, Jéthro, qui n'avait rien de relationnel avec Dieu, à notre connaissance. Et pourtant, ça a été une direction assez fantastique qu'il a dû prendre. Je ne donne pas d'autres détails à cause du temps. Voilà. C'est ça, une arche? Ok. On dit aussi qu'avec cette arche en question, le mot « arche » est employé en hébreu dans un autre cas particulier. Et l'autre cas particulier, c'est... Non, justement. Ah, je suis désolé, hein, je ne suis pas là pour... Alors, nous, en français, c'est le même mot. Mais en fait, le mot « arche » utilisé en hébreu dans une autre situation, c'est avec Moïse, quand on l'a mis dans un panier. Sauver les eaux. Et c'est exactement le même mot. Voilà. Mais en fait, on va se rendre compte, et je ne vais pas donner les détails plus loin, on va se rendre compte qu'en fait, Noé va faire partie d'un cycle, depuis le début de la Genèse, d'un cycle de recommencement permanent. Souvenez-vous, tout au départ, il y a la création, il y a Adam et Ève, mais il y a le péché qui est entré en Éden. Après, il y a la génération suivante et un fratricide, Caïn et Abel, vous connaissez l'histoire. Après, c'est Noé qui est stipulé là, et Noé est devenu père à l'âge de 500 ans, n'est-ce pas? Et puis, le chapitre suivant, c'est des hommes qui jettent leur dévolu sur de belles dames, ils se sont fait piéger, et puis Dieu va de nouveau intervenir en montrant les conséquences désastreuses du péché, en leur disant, soit ils se repentent, soit la mort les punira, et puis c'est Lot qui a construit cette fameuse arche. Noé vivra par la foi quand tout le monde est détruit. Puis après, il y a la tour de Babel, les gens qui voulaient construire une tour et qui voulaient être à l'égal de Dieu, et Dieu s'est penché, et puis il est dit, il se pencha et il regarda ce que les hommes étaient en train de faire. Moi, le paradoxe là, je le trouve aussi très très intéressant. Puis après, il y a des périodes très sombres, l'esclavage en Égypte, le désert, les juges, où chacun faisait ce qui leur semblait bon. Le roi jusqu'à Jésus, franchement, c'était pas très drôle. Mais, il va donc, Noé va déjà parler de ce fameux salut par le sang versé. Après l'histoire du déluge, il y a une pensée qui est revenue à Noé, qu'il a dû mettre en pratique, et Genèse 8 va pouvoir le dire, et il est dit à ce moment-là que, ce que va nous dire aussi l'Épître aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, c'est ce que va faire Noé à un moment donné, où il va offrir des holocaustes à Dieu. Le sang va revenir là en permanence. Il est toujours fâché avec moi. Alors, ce que Dieu avait promis, Dieu a promis qu'il n'enverra plus jamais de déluge d'eau. Mais en revanche, les cieux et la terre seront un jour détruits par le feu. La deuxième chose, comme autrefois Adam, Noé et ses fils reçoivent l'ordre d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. Troisièmement, Dieu livre entre leurs mains les animaux et leur donne toute chair pour nourriture, alors qu'avant la chute, Adam était végétarien. L'arc-en-ciel devient le signe d'une alliance perpétuelle et Dieu permettra le repeuplement de la terre, autant par les êtres humains, les animaux et les végétaux. Juste une chose que je vais faire remarquer avant la conclusion. Noé, il a une foi extraordinaire. Il va construire un bateau, Et tout le monde va se demander, mais pourquoi il fait ça? Il est complètement en décalage avec ce qui se passe à l'époque. Mais Noé va faire quelque chose de terrible. Vous vous souvenez de l'épisode de l'ivresse de Noé? Noé, il a pris une cuite, comme on dit, il s'est enfermé dans sa tente, et on l'a découvert nu dans sa tente. Il y a deux de ses fils qui sont entrés, qui l'ont couvert, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais il est parlé d'un fils et d'un petit-fils, petit-fils qui s'appelle Canaan. Ils sont venus et ils ont vu la nudité. Et voir la nudité, nous on a toujours pensé, il a vu quelqu'un qui n'était pas habillé. Mais en fait, si vous reliez ce texte avec Lévitique 18, vous allez comprendre qu'en réalité, non, c'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un inceste. Et c'est pourquoi Noé s'est fâché contre son fils et son petit-fils en leur disant « Votre terre sera maudite jusque dans l'éternité, Canaan. » D'accord ? Alors, oui, tu peux l'avancer encore ? Jacques 5, amen. Je vous donne la conclusion ? Jacques 5, Élie était un homme de la même nature que nous. On peut se dire aussi que Noé, c'était la même chose. Et nous sommes aussi de la même manière, dans un sens et dans l'autre, question de foi et aussi question de problème qu'on peut avoir. Alors en conclusion, si tu me sors la conclusion, s'il te plaît. Voilà, nous sommes appelés à avoir une foi obéissante. Ce sont deux choses qui sont inséparables, la foi et l'obéissance. Deuxième chose, si je mettais une note sur son évangélisation à Noé, je dirais qu'il aurait un zéro pointé. Parce qu'en fait, pendant 500 ans, il a dit « Attention, ça va mal terminer » et personne ne l'a suivi sauf sa famille. Si des fois tu penses que tu as prêché sans succès, dis-toi aussi qu'il y en a d'autres qui ont prêché plus longtemps. Troisièmement, combien de redémarrages dans le métarécit de Dieu à cause du péché ? N'oublions pas que le salut définitif ne peut pas simplement venir d'un recommencement moral, il faut une refonte en profondeur devant Dieu, venant de Dieu, pardon. Quatrièmement, recommencer à partir de zéro. Il y a des fois, tu te crois au fond du gouffre. Je m'en sortirai pas. Souviens-toi de Noé. Il a recommencé, il n'avait plus rien. Et il a bien redémarré. Cinquièmement, la vie des chrétiens n'est pas un long fleuve tranquille. On reste de conditions humaines entachées par le péché. Sixièmement, creusons la Bible. Un seul verset sur la vie de Noé, et qu'est-ce qu'on peut apprendre si on creuse un petit peu? Septième, bah oui, on est évangélique, il faut quand même bien mettre un septième point, n'est-ce pas? Jésus revient, Matthieu 24, comme au jour de Noé. C'est une belle comparaison que Jésus fait entre le déluge et son retour. Je vais vous demander maintenant de terminer cette prédication avec une prière commune, si vous êtes d'accord. C'est un psaume que vous connaissez. Je vais le lire. Et puis, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer de le relire avec moi comme une prière. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je peux vous le proposer. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, ceux qui sont d'accord, vous répétez avec moi. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous êtes d'accord ? Amen. Alors, si vous voulez sourire un petit peu le temps que je reparte, je vais demander à notre cher frère de balancer une petite vidéo. C'est pour l'humour. Vous vous souviendrez de moi. Merci beaucoup.
Et ils ont trois enfants.
Et ils sont mariés ?
Et ils ont trois enfants.
Ils sont mariés ?
Non, ils vivent dans le figuier.
Ils vivent où ça ?
Dans le figuier. C'est une expression. C'est dans la religion pour dire qu'un couple, il a fait des enfants alors qu'en fait, ils sont pas mariés.
Ah ok, je vois, ouais. C'est dans le péché.
Quoi ?
Ils vivent dans le péché, c'est ça l'expression.
Bah c'est comme on veut. Tu peux prendre n'importe quel arbre du moment que c'est un arbre fruitier.
Ça n'a pas de rapport avec les arbres fruitiers. Péché, ça veut dire faire quelque chose de mal au regard de la religion, ne pas respecter la volonté de Dieu. Donc vivre dans le péché, c'est vivre dans le mal.
Mais ça a bien un rapport avec les fruits, puisque des fois tu dis le fruit du péché.
Oui, mais non. C'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fruit du péché dont toi tu parles, qui est le péché, donc le péché arbre, et il y a le fruit du péché dont moi je parle, qui est le péché en tant que mauvaise action. Donc on peut dire, par exemple, qu'un enfant est le fruit du péché, mais c'est de ce péché-là qu'on parle. Pour dire que l'enfant a été conçu hors mariage, tu vois, contre les règles de la religion, ce qui est mal. Donc là, le péché, c'est pas vraiment un arbre, et l'enfant, c'est pas vraiment un fruit. C'est une métaphore, le fruit. Le fruit, c'est le produit. L'enfant est le produit d'une union, mais on dit le fruit parce que c'est plus poétique. Bon, après, t'as aussi le fruit du premier péché, qui est une pomme, le péché originel, celui d'Adam et Ève, et là, effectivement, c'est un vrai fruit, la pomme.
Oui, mais la pomme, c'est le fruit du pommier.
Oui, c'est le fruit du pommier, ouais. Mais c'est aussi le fruit du péché. Mais pas le péché en tant qu'arbre, le péché en tant que mauvaise action. Donc là, effectivement, c'est des arbres fruitiers, mais c'est une coïncidence. Ça n'a pas de rapport direct avec l'expression, celle qui dit qu'un enfant peut être le fruit du péché. Sinon, on dirait le fruit du pommier. C'est vrai qu'on pourrait très bien dire que certaines personnes vivent sous le pommier, tu vois, ça nous renverrait à la source même du péché. Et dans ce cas-là, on pourrait très bien dire que nous sommes tous le fruit du pommier ou le fruit de la pomme, étant donné que nous sommes tous issus de ce premier péché.
Donc si quelqu'un a compris quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir. Merci en tout cas, François, merci pour ce...